RFJ Info.
Le journal de Jérémy Pignard.
Bonjour, le Jura adopte son tout premier plan cantonal de lutte contre les violences, dispositif qui fait écho à la Convention d'Istanbul ratifiée il y a 3 ans par la Suisse. La déléguée à l'égalité dans le Jura, Angela Fleury, est l'invitée de ce journal. Les vacances dans la vallée, c'était le tube de l'été. Le site Vagvadez, lancé en juin dernier, a recensé plus de 20 000 visiteurs. Les prestataires de la région parlent aussi d'un succès. Tout un pan de l'horlogerie suisse raconté sous la plume de l'auteur jurassien Pierre-Yves Donzé, des nations, des firmes et des montres est sorti aux éditions Alphil. Il refait l'histoire de 1850 à nos jours. Vous venez à peine de tomber le short, et bien on renfile le bonnet élégant dès demain, 8 degrés en plaine, 3 petits degrés seulement sur les hauteurs et de la neige attendue à partir de 1200 mètres. Les violences domestiques, sujet d'actualité brûlant, pas un hasard si le canton du Jura se dote aujourd'hui de son premier plan cantonal de lutte contre les violences, texte qui répond notamment aux exigences de la Convention d'Istanbul ratifiée il y a 3 ans par la Suisse. Le plan répertorie les mesures déjà en place, mais identifie aussi celles encore à mettre en place. On va détailler tout ça avec la déléguée à l'égalité dans le Jura, qui est votre invitée, Émilie Moumentaler.
Angela Fleury, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi la présidente du groupe coordination violence chez dans le Jura. Ce plan cantonal, ça faisait longtemps que vous l'attendiez. Qu'est-ce qui a permis cette avancée finalement ?
Oui, un groupe coordination violence qui existe depuis 2001, hein, je voulais juste le signaler. Alors, la Convention d'Istanbul a permis en fait de mettre en avant des recommandations au niveau suisse. En tout cas pour nous, pour les cantons, les bureaux de l'égalité notamment, puisque c'est au niveau suisse romand, c'est les bureaux de l'égalité qui ont la charge de la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul. Il y a six axes qui ont été répertoriés, et puis nous avons donc appliqué en filigrane ces 6 axes dans le plan d'action que nous avons concocté. On a réfléchi pendant quelques mois avant de mettre ce plan sur pied. Puis finalement, on a réalisé quelque chose en collaboration avec les différentes institutions qui sont concernées de près ou de loin par les domaines de la violence domestique. Donc c'est un plan en fait qui s'étale sur 4 ans.
Ça a été facile de s'aligner pour le Jura ?
Ah, c'est pas toujours simple parce que dans le canton du Jura, on manque évidemment d'infrastructures, hein, mais dans beaucoup de domaines, hein, ça c'est pas une nouveauté. Mais en fait, ça a permis quand même, puisqu'on a déjà dû rendre un rapport au Grevio, qui est l'institution internationale qui voulait savoir ce qu'on avait déjà accompli depuis 2019, parce qu'en fait, cette opération avec la Convention d'Istanbul a débuté en 2019 et en septembre 2020, il fallait déjà rendre un premier rapport. Ça nous a permis déjà de faire une évaluation, une estimation de tout ce qu'on avait mis en place. Il y avait pas mal de choses, hein, malgré tout. Après, c'est clair que ce plan, il se veut évolutif, donc il y a plein de choses qui sont venues se greffer, plein de choses qui s'ajouteront, donc des projets, peut-être des infrastructures, mais tout ça, c'est musique d'avenir, parce qu'il faudra en discuter donc avec les personnes concernées et le groupe de travail.
Alors concrètement, comment ce plan va permettre de mieux lutter contre les violences ?
Alors tout d'abord, on a fait un plan de travail avec différents axes, et ça c'était la base, si vous voulez, les fondamentaux du plan, où on a vu qu'il y avait des paramètres qui étaient importants, donc celui des enfants, celui des victimes, celui des auteurs, le soutien aux professionnels, parce qu'ils sont nombreux à travailler, hein, dans les instances, dans les entités sociales ou de la santé. On a aussi donc le paramètre de la prévention, sensibilisation, etc. J'ai perdu le fil de votre question, pardon.
Concrètement, comment on va pouvoir mieux lutter contre les violences avec ce plan ?
Ben justement, en travaillant de concert, justement, avec toutes tous les professionnels de la santé et du social qui travaillent dans les domaines que je viens de vous exposer, parce qu'on travaille, on est un petit canton, donc on travaille quand même passablement en réseau, et on s'est rendu compte qu'il y a quand même des besoins dans chacune des institutions, que ce soit l'hôpital avec qui on collabore, que ce soit la vie avec qui on collabore, la police, enfin je pourrais vous en citer d'autres. Voilà, c'est en travaillant ensemble, nous on sera un petit peu, si vous voulez, le coordinateur de cette mise en œuvre. Alors évidemment, c'est un gros dossier, donc on a besoin de beaucoup d'expertise. On en a déjà quelques-unes qui sont importantes dans le cadre du groupe, qui forme le groupe violence. Et après, on ira chercher, donc, au fur et à mesure, des expertises venant d'ailleurs. Mais c'est clair que seul, on n'y arrivera pas. C'est vraiment un travail de groupe pour pouvoir s'intéresser à toutes les... à tous les domaines dont je vous ai parlé.
Donc on l'a dit, dans le Jura, un des atouts, c'est le réseautage. Par contre, vous l'avez déjà un peu dit, ce qui ne va pas encore tout à fait bien, c'est les infrastructures. Quel progrès on pourrait amener encore à ce niveau-là?
Alors écoutez, là, il y a pas mal de choses. Si je reprends par exemple la Convention d'Istanbul qui demande une visibilité de la vie et qui demande aussi d'avoir un nombre suffisant de maisons de refuge ou d'hébergement. Alors on ne peut pas dire qu'on n'en a pas dans le Jura, parce que ça se fait déjà quand il faut déplacer des familles, quand il faut placer des personnes, hommes ou femmes. Simplement, à ce niveau-là, donc je pense que la réflexion Elle doit se faire, elle devra forcément se faire, parce qu'on ne peut pas imaginer mettre une maman avec ses enfants n'importe où pour une longue durée. Il y a aussi, je vous le donne comme ça parce que ça me vient à l'esprit, donc une unité de médecine des violences. Nous avions visité avec une partie du groupe violence et une partie de la direction de l'hôpital. Nous étions allés donc à Yverdon pour visiter un centre d'unité, enfin ce centre d'unité de médecine des violences, qui est quelque chose d'utile et qui pourrait donc directement orienter toutes les instances qui travaillent dans ces domaines en disant, voilà, quand il y a un problème, vous n'allez pas aux urgences, au rayon, à la salle d'attente des urgences, mais il y a donc une spécificité pour les hôpitaux du Jura. Donc c'est un projet, hein, c'est moi qui vous le dis. On pourrait donc directement les orienter vers une unité qui pourrait s'appeler médecine des violences, qui existe au CHUV, qui existe à Nyon, qui existe à Yverdon, et dont je sais qu'il y avait un projet en cours dans le canton du Jura. Voilà. Après, il y a plein de choses, mais on n'a pas le temps pour les énumérer, forcément.
Et puis, vous allez présider le groupe de travail qui va élaborer un projet de loi cantonale en matière de lutte contre les violences domestiques. Légiférer sur le sujet, ça peut permettre de concrétiser ces objectifs?
Ah oui, ça c'est certain. Parce que là, on aura donc une partie des membres du groupe violence. Comme je vous ai dit, on a un panel d'experts. Et en même temps, donc, il y aura le service de la santé, il y aura la police, le ministère public. Je veux dire, il y a des gens qui ont aussi des besoins et qui pourront les faire valoir dans le cadre de nos réunions et de ce qu'on voudra mettre sur pied. Par exemple, il y a une chose qui fait vraiment défaut, en tout cas chez nous, et je sais que dans certains bureaux de Suisse romande aussi, c'est les statistiques. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait intégrer pour avoir des statistiques claires par rapport au profil garçon, fille, enfin, je veux dire, homme, femme, tranche d'âge, etc. Ça, c'est tous des éléments qu'on peut intégrer, éventuellement même encore une hotline, par exemple. Hein. Voilà, il y a plein de choses, oui, qu'on pourra clairement discuter et intégrer.
Angela Fleury, déléguée à l'égalité entre femmes et hommes et présidente du groupe Coordination Violence dans le Jura. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée.
Mais je vous remercie. Bonne journée à vous.
Et ce dossier sur le plan cantonal de lutte contre les violences sera évidemment à retrouver sur rfj.ch. Les élections cantonales, c'est à gauche toutes pour les Verts. Comme le CS Pop, le parti écologiste appelle à voter 5 candidats de gauche au gouvernement. Évidemment, les Verts Céline Robert-Charulinder et Vincent Schmitt, Francisco Pires du CS Pop et les socialistes Rosalie Beressis et Nathalie Bartolo. Seule solution, selon les Verts, pour atteindre les objectifs axés sur l'urgence climatique et la justice sociale. Après le calme du confinement, de nombreux habitants de Lémontin ne supportent plus le bruit, le vacarme devant les bars, les moteurs qui pétaradent, les activités nocturnes, ces nuisances sonores agacent la population, surtout depuis le déconfinement. Les autorités ont reçu plusieurs doléances, prises avec sérieux par le maire de Delémont, Damien Chapuis.
Un plan d'action actuellement en discussion au sein de l'exécutif de Lémontin pour pouvoir régler ces différentes incivilités. C'est quelque chose qui sera présenté par la suite au conseil de ville pour essayer d'améliorer la vie de nos concitoyens. Alors, il y a différentes mesures, c'est de pouvoir avoir plus de présence policière ou des agents de sécurité ou même des civilistes ou autres qui pourraient venir en contact avec la population, donner un coup de main à l'ensemble des personnes qui le nécessitent pour qu'on puisse essayer de régulariser un petit peu cette situation. Il y a d'autres éléments qui sont absolument nécessaires, c'est d'aller vraiment au contact de la population sans passer directement par la répression, mais d'expliquer les choses aux gens puis de leur faire comprendre qu'en fait, la manière dont ils agissent peuvent nuire à l'ensemble du bien-être de la population. C'est difficile de mettre un policier derrière chaque citoyen pour régulariser la situation, donc on compte aussi sur la bonne volonté des gens pour qu'ils puissent améliorer ce genre de choses.
Et ce sont principalement la vieille ville et le secteur de la gare qui sont concernés par ces nuisances. On y revient dans le journal de 18h. La cantine ira jusqu'au tribunal fédéral. Les membres de l'espace autogéré des Rondées à Delémont ont décidé hier soir de faire recours pour le litige qui les oppose à l'entreprise Fonroll. Ils entendent défendre l'importance du projet socio-culturel qui répond selon eux à un réel besoin. Le propriétaire des lieux, Fonroll, avait dénoncé le bail le liant à la cantine. La cour civile du tribunal cantonal lui avait donné raison la semaine dernière. Les vacances locales dans la vallée de Delémont ont rencontré un certain succès. Durant l'été, plus de 20 000 personnes ont visité le site vagvadaise.ch lancé en juin dernier. Chiffre dévoilé hier soir lors de l'assemblée de l'AMDD, l'association des maires et présidents de bourgeoisie du district de Delémont. Les communes partenaires du projet tirent aussi un bilan très positif, tout comme les prestataires à l'image du moulin à huile de Soyères tenu par Christian Gagneux.
Ça a augmenté le nombre des visiteurs de manière assez conséquente par rapport à l'année précédente. Et on a vraiment été satisfaits de la fréquentation des touristes et des vacanciers locaux également qui sont venus nous visiter.
Des locaux qui ne connaissaient pas forcément le moulin, mais aussi des gens qui viennent d'horizons éloignés.
Oui, des personnes qui viennent de très loin même. On a eu des visiteurs d'Amérique du Sud et également des visiteurs venant d'Israël. Bien sûr, les gens qui visitent s'arrêtent ensuite dans le magasin et achètent de nos huiles.
Vous avez été surpris de voir des gens de ce type de pays débouler chez vous ?
Surpris, oui, dans le sens où on entendait qu'il n'y avait quasiment pas de touristes venant de loin à cause du Covid-19. Et oui, on a été surpris de voir des gens venir de très loin s'intéresser à notre moulin. On est surpris aussi de voir l'intérêt que ce genre d'endroit suscite.
Des propos recueillis par François Comte. Vagvadaise.ch poursuit ses activités et le site sera pérennisé, mais la MDD souhaite en confier la gestion à une autre association. Bilag devrait rendre 50 francs à chaque ménage soumis à la redevance audiovisuelle. Le Parlement a adopté ce matin une base légale pour une indemnisation, une belle victoire pour l'Alliance des organisations de consommateurs. Le tribunal fédéral avait jugé que le responsable de la redevance radio-télévision avait indûment perçu une taxe de 2,5%. L'Office fédéral de la communication avait cependant refusé de rembourser automatiquement les montants en trop. Le Conseil national est réticent à distribuer des sanctions aux sociétés qui n'applique pas l'égalité salariale. Il a refusé ce matin de modifier la loi sur l'égalité, entrée en vigueur il y a 3 mois, vote porté par la majorité bourgeoise. Le socialiste valaisan Mathias Reynard demandait à la Confédération de tenir aussi une liste noire des entreprises récalcitrantes.
Il n'y a aucune sanction au cas de non-respect de cette loi. On n'a pas non plus de liste noire, c'est-à-dire que les entreprises qui ne respecteraient pas l'égalité salariale, qui volontairement discrimineraient les femmes au niveau salarial, ne seraient même pas sur une liste noire. Pour une majorité du Conseil national, il n'y a pas de nécessité d'agir. Pour une partie d'entre eux, c'est parce qu'ils nient même les discriminations salariales. Et puis pour une autre partie, c'est au marché lui-même de se réguler. Lorsqu'on veut lutter contre le travail au noir, on fait des lois pour pénaliser les entreprises qui embauchent des gens au noir. On devrait faire exactement la même chose avec les discriminations salariales. C'est pas moins grave de discriminer les femmes sur le marché du travail que d'engager des gens au noir.
Réponse de la majorité bourgeoise, pas judicieux de modifier une loi entrée en vigueur il y a 3 mois. Et l'esprit de la loi, c'est justement l'absence de sanctions. Elle mise sur la bonne volonté. Mais pour la libérale radicale genevoise Simone de Montmolin, pas question non plus de couvrir les entreprises qui pratiquent la discrimination.
Les entreprises qui sont pointées du doigt parce qu'elles ne respecteraient pas de manière volontaire le principe d'égalité salariale sont des entreprises qui seront clairement mises au pilori, mais pas forcément par les services de l'État, mais par la population. C'est pas crédible aujourd'hui, c'est pas dans l'intérêt des entreprises de volontairement discriminer des catégories de travailleurs, ici les femmes. La volonté du Parlement en modifiant cette loi en 2018, était de véritablement donner les moyens d'améliorer la compréhension d'où viennent ces inégalités pour pouvoir y remédier. Et je crois que c'est dans cette perspective qu'il faut voir les choses.
Et le syndicat Travail Suisse a lui créé une plateforme numérique qui distingue les entreprises qui s'engagent pour l'égalité et les vrais réfractaires couchés sur une liste noire. Forte participation attendue pour les votations de ce dimanche, c'est ce que révèle le nombre d'enveloppes de vote renvoyées jusqu'ici dans les villes suisses. Un nombre supérieur à la moyenne habituelle. Décryptage des résultats dimanche soir sur RFJ dans le journal de 18h. Les deux sénateurs jurassiens Charles Juillard et Elisabeth Baumschneider seront nos invités. À l'étranger, une enseignante de l'Île-de-France mise en examen, placée sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une affaire de harcèlement sur mineurs. Une procédure ouverte après le suicide d'une collégienne l'an dernier. Les parents de cette jeune fille de 11 ans avaient déposé plainte contre l'enseignante pour n'avoir rien fait contre le harcèlement dont leur fille était victime. Le carnaval de Rio fait lui aussi l'impasse. Les festivités de l'un des plus grands événements d'Amérique du Sud ont été annulées en raison de la pandémie de coronavirus. Elle devait avoir lieu en février prochain. Imaginez maintenant un pays où la main-d'œuvre ne coûte pratiquement rien, un pays qui exporte des montres bon marché, évidemment en cachant l'origine, pour les vendre moins cher. Eh bien, ce pays, c'est la Suisse de la fin du XVIIIe siècle. La suite, eh bien, c'est l'histoire racontée par Pierre-Yves Donzé dans son livre « Des nations, des firmes et des montres ». L'auteur jurassien décrit comment la Suisse s'est fait sa place dans un marché de plus en plus globalisé, jusqu'à la fameuse crise du quartz des années 70, un nom d'ailleurs bien mal choisi selon Pierre-Yves Donzé.
Moi, j'aime pas trop parler de crise du quartz, parce que précisément, la crise n'est pas forcément liée au quartz. Le quartz, ce qui est intéressant, c'est que c'est une innovation suisse. Le premier prototype est suisse. Mais la première montre lancée sur le marché, vendue, est japonaise, en 69. Parce qu'en Suisse, on n'est pas du tout en retard technologiquement. On sait développer des montres à quartz, mais on ne sait pas les produire en masse et les vendre, alors que les Japonais y arrivent. Pour comprendre cette différence, il faut voir l'organisation industrielle des deux pays. Dans les années 60, l'horlogerie suisse est encore organisée sur la base d'une multitude de petites entreprises qui ont peu de moyens pour changer de technologie, parce que ça coûte cher de changer de technologie. Donc pour une PME, c'est un changement considérable. En revanche, pour Seiko, qui est une énorme entreprise, parce que l'industrie horlogère japonaise repose en gros sur trois entreprises uniquement, Seiko ne fait qu'ouvrir une usine supplémentaire pour passer au quartz. Donc c'est un investissement qui est moins conséquent. Et dès le départ, on pense produire en masse.
Des nations, des firmes et des montres de l'historien Pierre-Yves Donzé, histoire de l'industrie horlogère de 1850 à nos jours, à retrouver aux éditions Alphil. Et puis on apprend à l'instant que trois personnes ont été blessées à l'arme blanche aujourd'hui à Paris, près des anciens locaux de Charlie Hebdo, le où les auteurs des faits sont actuellement en fuite. On y reviendra sans doute dans nos prochaines éditions de la journée.
Vous écoutez RFJ, il est 12h32.
Sport. Henri Laaksonen rejoint Stan Wawrinka dans le tableau principal de Roland-Garros. Le Zurichois s'est qualifié en s'imposant ce matin contre le Colombien Daniel Elahi Galan 7-5-6-1. C'était lors du troisième tour des qualifications pour le tournoi du Grand Chelem français. Le dernier test pour le HC Ajoie avant la reprise du championnat. Les Ajoulots se déplacent sur la glace de Langenthal ce soir 19h45. Duel entre clubs de Swiss League en guise de dernier match de préparation. Le coup d'envoi du championnat, ce sera vendredi prochain au Tessin pour le HCA qui en est à 7 victoires en 8 matchs d'avant-saison. Pour la deuxième ligue, en revanche, c'est déjà l'heure de la reprise. Le championnat commence dès ce soir. Les affiches des clubs régionaux. La réserve de Franche-Montagne accueille Le Locle à 20h15 à Seignelay-Légier. Tramelan va rendre visite à Sarine-Fribourg à 20h30. Et puis on sortira les pointes demain à la Blancherie à Delémont. C'est là qu'auront lieu les championnats jurassiens et neuchâtelois de relais. Début des compétitions d'athlétisme à 15h. 4 courses élites au programme. Le 4x100 mètres féminin et masculin ainsi que les relais olympiques chez les dames et chez les hommes. Et de la moto également dans le Jura ce week-end avec le championnat de Suisse de trial, 4e manche de la saison dimanche à Basse-Cour, début de l'épreuve à 9h30 pour les élites. Le motard de Vic, Noé Pretali, cherchera à poursuivre son sans faute pour décrocher son 4e succès de la saison. Très bon après-midi.
Merci Jérémy Pignard, c'est tout de suite la météo à 12h33. Des éclaircies et des nuages, c'est ce qui est prévu encore un petit moment, avant que les averses redeviennent plus nombreuses cet après-midi, donc dans pas longtemps. Et ces pluies seront plus soutenues la nuit prochaine, avec une limite de la neige qui s'abaissera jusque vers 1000 mètres. Selon Météo News, les températures maximales seront de 8 degrés aux Franches-Montagnes, très en pleine aujourd'hui. Demain, c'est un temps maussade qui est prévu, très frais et venteux. La pluie sera possible à tout moment de la journée et souvent abondante. La limite de la neige se situera entre 1000 et 1200 mètres et il fera au mieux 6 degrés à 1000 mètres et 10 à basse altitude. Et dimanche, on nous annonce la poursuite d'une météo grise et humide avec du vent. Les pluies seront probablement un peu plus faibles et intermittentes, mais redeviendront fréquentes en soirée et durant la nuit suivante. Tout cela avec des maxima de 6 degrés aux Franches-Montagnes et 10 en pleine.